Gloire au Seigneur. Vous l'avez chanté de tout votre cœur? C'est vrai ce que vous venez de chanter? Je veux toujours l'aimer. Mais l'aimer, c'est pas superficiel, c'est pas intellectuel, c'est quelque chose de spirituel. Vous savez que nous avons entamé une étude qui nous indique combien Dieu veut que nous mourions à nous-mêmes afin que nous portions du fruit. Jésus l'a dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le contexte, il fait allusion à un grain de blé qui tombe en terre, qui meurt et qui peut, parce qu'il meurt, multiplier. Alors nous allons voir ce soir l'importance d'être, on l'a vu dimanche la semaine, d'être déterminé. Vous vous rappelez, Anne dimanche, on a parlé d'Anne dimanche, combien cette femme était déterminée. Malgré les persécutions, malgré la souffrance, cette femme était déterminée et elle était sérieuse. Vous savez, hier soir je lisais le cantique qu'elle a composé, parce qu'il y a sa souffrance au chapitre 1er, mais au chapitre 2, il y a son cantique. Et cette femme exprime la reconnaissance qu'elle a envers Dieu. Et pour commencer cette étude, je voulais juste terminer un peu la prédication de dimanche. Cette femme avait dit, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. C'était sa prière. Et en lisant ça hier soir, je pensais à tous, écoutez bien, qui m'ont dit, moi c'est pas grave, mais qui ont surtout dit à Dieu, parce que moi c'est pas important, mais qui ont dit à Dieu, si Dieu guérit mon fils, je me consacrerai à Dieu. Si Dieu fait ceci, je l'obéirai, je le servirai. Moi j'ai vu un homme devant moi, un homme qui a dit à son fils, si Dieu te guérit, j'irai tous les dimanches à l'église. Devant moi, il a dit. Son fils a dit, c'est vrai, papa, tu le feras? Oui, je te le promets, j'irai. Il n'est jamais venu, même pas un dimanche à l'église. Alors, je ne veux pas critiquer, ce n'est pas mon but. Mais c'est pour vous expliquer la confusion qu'il peut y avoir dans le cœur de certains. Il y a des hommes que Dieu va bénir parce qu'ils sont vraiment déterminés. Et il y a des gens qui croient l'être, mais qui ne le sont pas. Et Anne, elle avait dit, mais si tu me donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Et au dernier moment, elle n'a pas dit, bon, quand même, bon, puis Dieu l'en trouvera un autre. Est-ce qu'elle aurait pu le faire, ça? Ben, bien sûr, il y en a plein qui l'ont fait. Moi, ici, j'ai vu des gens. Je vous assure, si je vous le racontais, ça vous ferait pleurer. Je crois que Dieu connaît le cœur des hommes. Et il connaît les chrétiens. Et il voit leur cœur. Et il y a des paroles dans la Bible. On va lire deux prières de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Dieu a permis que Paul soit emprisonné, et ce n'est pas la première fois. Dieu a permis que Paul soit emprisonné. Est-ce que ce n'est pas une épreuve, ça, être emprisonné? Ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui. Hein. Est-ce que ce n'est pas une épreuve d'être emprisonné? Et cet homme, en prison, il ne prie pas, « Priez pour moi, j'en ai marre d'être en tôle, je veux sortir, priez pour moi. » Il prie pour les chrétiens, pour que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une bénédiction, ça? Hein? Alors, on va lire deux prières qui indiquent l'état d'esprit dans lequel Dieu veut que nous soyons. Pas que vous devez être, que vous pensez devoir être, que Dieu veut que vous soyez. Éphésiens chapitre 1er. C'est une église où les chrétiens vont pas trop mal. Il y a quand même, c'est une bonne église. On le voit au verset 15 du chapitre 1er. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. C'est bien que ça commence comme ça. Une église, on peut dire, ah, on a entendu parler de leur amour, de leur foi, c'est bien. Bon, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Alors, qu'est-ce que ces chrétiens qui ont de l'amour et qui ont de la foi doivent découvrir? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 1. 2. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. 3. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 4. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et tenez-vous bien, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chair suprême, à qui? À l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le résultat, qu'est-ce que Dieu veut? Verset 6 du chapitre 2, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Deuxième prière, chapitre 3, verset 12. « En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » À cause de cela, n'oubliez pas, il est en prison. Je le répète, il ne prie pas pour que les chrétiens, pour qu'ils sortent. Il est à sa place. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 1. D'être puissamment fortifié par son esprit, E majuscule, donc c'est par le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur, dans votre esprit. En sorte, deuxièmement, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et conséquence de cette vie, hors conjonction de coordination, je vous en parle souvent, parce que je suis tellement blessé de voir que dans plein d'églises, on utilise un verset comme ça, au détriment du contexte, Dieu peut faire infiniment, au-delà de ce que nous pouvons pas demander ou penser. Ce n'est pas vrai. Pour les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui vivent dans l'obéissance, hors, donc conjonction, Dieu peut faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations, ce n'était pas pour l'Église primitive, c'est pour la génération de 2014, que le Seigneur soit béni. Paul est en prison. C'est souvent qu'il est en prison. C'est souvent. Il est en prison, il est dans la volonté de Dieu. La preuve, c'est qu'il a écrit des choses qui indiquent ce que l'Église doit être, ce que les chrétiens doivent vivre. Alors, prenons que le verset 16. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner, par sa puissance, par la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans votre esprit? Voilà la question que je vous pose ce soir. Qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez être béni? Ou vous voulez vivre l'avant-dernier cantique qu'on a chanté? Te ressembler, Seigneur Jésus. Comment vous l'avez chanté, ce petit cœur? Comment vous l'avez chanté? Comment vous l'avez chanté? Vous l'avez chanté? Est-ce que vous avez vu ce qu'on a chanté? Julie, remettez-moi l'avant-dernier cantique, le quatrième. Est-ce que vous avez chanté ce cantique comme véritablement une prière? Comme Anne a dit, mais si tu me donnes un fils, je te le consacrerai à Dieu. Est-ce que ça valait la peine que Samuel soit consacré à Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte? Lisez les deux livres de Samuel et vous verrez que ça valait vraiment la peine. Te ressembler, parce qu'on chante des choses, c'est... La mélodie, c'est surtout heureuse. Alors la mélodie, c'est super. Mais il n'y a pas que la mélodie. Te ressembler, Jésus. Est-ce que vous voulez ressembler à Jésus? Ou est-ce que vous voulez la bénédiction de Jésus? Il vous faut répondre. Sinon, la réunion s'achève. Mais c'est sérieux, ça. Te ressembler, Jésus. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas bien. J'y ai pensé pendant qu'on chantait. Je vous le dis, ce n'est pas pour critiquer, parce qu'en plus, je sais que si on critique, Dieu bénit pas les prières. J'étais avec des croyants dans une situation assez particulière. Et il y a un chrétien qui a dit, si ce chrétien y parle, je lui casse les reins. Et 5 minutes après, on était dans l'église, et le gars avait les larmes aux yeux, chantait, « Te ressembler, Jésus. » Moi, j'étais là, je dis, mais c'est pas possible. Je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer la peine que j'avais. Être capable de dire, ce chrétien, je lui casse les reins, s'il dit ça, et 5 minutes après de chanter, te ressembler, vous comprenez bien que c'est... Franchement, ça fait pitié, oui ou non? Mais voyez, combien on peut être loin de la vérité. La vérité, c'est dire, Seigneur, écoute, tu me bénis, merci. Paul était en prison, il dit, voilà, écoute, Paul, il n'était pas assis en prison. Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines. Paul, il était assis dans les lieux célestes. Il était dans la victoire. Il était dans l'épreuve. Je ne sais pas si vous êtes dans une épreuve. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une forme de prison. Est-ce qu'on peut être en prison et être en bénédiction aux autres? Mais bien sûr que oui. C'est pour ça que Paul, lui, il vivait quelque chose, il voulait ressembler au Seigneur. Mais prenez cet épître, lisez Éphésiens les 6 chapitres, méditez. Il y a peut-être un livre que vous pouvez, entre guillemets, connaître par cœur. Ça peut être Éphésiens. Mais c'est un chapitre, combien je vous encourage à apprendre ce chapitre par cœur. Et vous découvrirez le comportement d'un chrétien, la position d'un chrétien. Et Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, explique que malgré la foi et l'amour qu'on peut avoir, on l'a lu dans la première prière, il faut que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Il faut que notre esprit, avec un petit E, soit fortifié par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est votre prière? Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Alors, je reformule ma question. Est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit? C'est important. Et le Saint-Esprit, Dieu ne le corde pas comme ça. Voilà, si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, venez, on va vous imposer les mains. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Les gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont payé un prix. Ils ont obéi au Seigneur. Jésus leur avait dit, vous attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont attendu pendant 10 jours dans la chambre haute. Je ne sais pas comment ils se sont organisés pour les enfants, pour le travail. Mais dès qu'ils avaient du temps, ils se retrouvaient dans la chambre haute. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance. Et ils ont reçu cette puissance et ils ont pu faire l'œuvre de Dieu. Ce texte est clair. Ce texte nous dit que nous devons être fortifiés par le Saint-Esprit, dans notre esprit. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, tous, mais nous pouvons être ne pas baptisés du Saint-Esprit et nous pouvons vraiment chercher la vie de l'Esprit. Une de nos joies, la grande joie qui devrait être la nôtre, c'est vraiment de connaître la volonté de Dieu et de la vivre. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu à votre égard? Tout à l'heure, je discutais avec une jeune fille qui m'a demandé le baptême et je lui disais, vous savez, un des versets clés pour commencer la vie avec Dieu, c'est ce que Jésus a dit un jour à Satan d'ailleurs, quand il le tentait, il a dit, tu l'adoreras, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. On adore Dieu, cette communion avec Dieu, pas cette prière, je parle de cette adoration. Il y a des gens qui toute leur vie prient Dieu, ils ne le connaissent même pas. Ils récitent des prières toute leur vie, ils ne l'ont jamais rencontré. C'est pour ça que je dis l'adoration. L'adoration, c'est vraiment ce respect de Dieu. Je l'aime parce qu'il est Dieu. Le dimanche matin, on ne devrait entendre que de l'adoration. Et je l'ai déjà dit, on entend souvent des prières. Seigneur, bénis mon pépé, bénis ma tata, et parce qu'elle est malade. Bon, mais c'est sûr qu'il faut prier pour tata et tonton. Mais je sais bien qu'il faut prier pour... Mais le dimanche matin, vous ne croyez pas qu'on ne pourrait pas adorer le Seigneur? Sérieusement. On a 20 minutes de chant, 10 minutes de louange. Vous ne croyez pas qu'on pourrait prendre 10 minutes le dimanche pour adorer le Seigneur? Sérieusement, est-ce que c'est trop demandé? Alors, est-ce qu'un pasteur a le droit de contrôler ça? Moi, je ne crois pas en plus. Un pasteur n'a pas le droit de le contrôler, parce qu'il peut y arriver qu'une femme arrive et soit en désarroi parce que sa fille est malade. On ne va pas l'empêcher de prier non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il me semble que si nous étions remplis du Saint-Esprit comme Dieu nous le demande, nous aurions ce quart d'heure ou ce temps de grâce où nous ne pensons qu'à adorer Dieu parce qu'il est Dieu. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est un adorateur. Et un adorateur, il ne peut pas faire autrement que de servir Dieu. Et si vous n'arrivez pas à trouver un service, si vous n'arrivez pas à rentrer dans quelque chose, eh bien, adorez Dieu. Retrouvez-vous dans sa présence et vous aurez la joie de comprendre que l'œuvre de Dieu, je l'ai déjà dit dernièrement, elle est spirituelle et elle ne se fera qu'avec des gens spirituels. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de Dieu, elle ne se fera pas avec des gens charnels. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des gens spirituels. Notre être intérieur, notre esprit, doit être fortifié par le Saint-Esprit. Peut-être qu'en ce moment, ça ne va pas. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes vraiment faible. On peut être rempli du Saint-Esprit et être faible physiquement. Mais on peut être très faible physiquement et être en même temps rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question de puissance physique, de puissance intellectuelle. C'est quelque chose d'intérieur. On doit faire des efforts. Toute la Bible nous encourage à faire des efforts. La vie spirituelle est faite d'efforts. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Faites tous vos efforts. Bien sûr, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts parce que quand même, Dieu nous demande de participer. Mais quels sont les efforts que vous faites? Est-ce que vous faites confiance à vos efforts? Parce que là aussi, on peut dire, ouais, je fais ci, je fais ça. C'est pas ça, les efforts. mais je fais des efforts pour vraiment vivre ce que Dieu me demande. Je fais des efforts pour savoir, mais quelle est ma place? Seigneur, tu m'as placé là dans cette église, mais quelle est ma place? Qu'est-ce que tu me demandes? Dieu peut vous aiguiller pour vous occuper d'une personne. Est-ce que Dieu peut vous conduire à vous occuper d'une personne? Est-ce que ça peut être la volonté de Dieu? Oui, Dieu peut vous amener à vous occuper d'une personne qui est malade. Et pendant des mois, jusqu'à ce que, peut-être son décès, vous allez vous occuper d'elle. C'est ce que Dieu va vous demander. Et on doit le faire avec joie. On doit être rempli du Saint-Esprit pour faire ça. Peut-être que Dieu va vous demander de vous occuper de quelques personnes. Peut-être que Dieu peut vous demander de vous occuper d'un service, des enfants, des ados, de toute l'Église, d'une manière particulière, etc. Mais si nous voulons comprendre ces choses, si nous voulons vivre ces choses, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Regardez cette prière. Il prie, il est en prison et il fléchit les genoux. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, que les chrétiens d'Éphèse soient fortifiés par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, dans leur esprit. Et c'est ce qu'on devrait demander au Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi par ta force toute puissante. Et le Saint-Esprit, c'est là qu'il faut comprendre. Parce qu'on veut tous être remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, est-ce qu'il vient sur la chair? Eh non. Regardez avec moi Romains chapitre 8. Je crois que c'est important parce que dit oui, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est bien, vous pouvez prier tout ça, tant que vous voulez. Mais quand même, je pense qu'il faut être sérieux avec cette prière. Te ressembler, Seigneur, c'est bien. On a bien fait de le chanter, c'est bien. Alors, Romains chapitre 8, verset 5. Parce qu'il faut, voir, est-ce que je m'affectionne des choses de l'esprit ou je m'affectionne des choses de la chair? Parce que ça serait un paradoxe de demander à Dieu d'être baptisé du Saint-Esprit et de l'autre côté s'affectionner aux choses de la chair. Alors Romains chapitre 8, verset 5. Ceux qui en effet, qui vivent selon la chair, eh bien ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est bien de dire, je veux être fortifié par le Saint-Esprit. Dans mon esprit, oui, je veux être rempli du Saint-Esprit. Mais si je continue à m'affectionner aux choses de la chair, est-ce que je peux être rempli du Saint-Esprit? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont dans une grande souffrance, parce qu'en même temps, ils veulent être remplis du Saint-Esprit, mais ils continuent à s'affectionner aux choses de la chair. Je ne parle pas des choses humaines, utiles, des activités de la vie normale, mais il y a des activités charnelles, il y a des choses charnelles. Celui qui aime le monde, la Bible dit que l'amour du Père n'est pas en lui. L'esprit de vérité, moi je vous l'ai dit l'autre jour, que le monde ne peut pas recevoir. Vous comprenez? On peut dire, mais la prière de l'apôtre Paul, mais amen, amen, amen. Oui, je veux être fortifié par le Saint-Esprit. Mais la question que je nous pose ce soir, est-ce que les choses charnelles nous affectionnent? Ou est-ce qu'on prend la décision de crucifier ces choses? Ceux qui vivent selon l'esprit ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Parce que nous, on est tous, bien sûr, on est tous friands de la Pentecôte. Qui n'est pas heureux d'être pentecôtiste? La Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, la résurrection de Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui a précédé la Pentecôte, c'est le calvaire. Et je crois qu'on a un problème sérieux avec la mort de Jésus-Christ. On n'a pas compris qu'on devrait toujours être mort à Jésus-Christ. Est-ce que c'est écrit que nous devons mourir à nous-mêmes? Est-ce que c'est écrit que nous portons dans notre corps la mort de Jésus-Christ? Est-ce que Paul a dit, mais oui, vous êtes mort et votre vie, elle est cachée avec Christ? Et la parole de Dieu nous parle de cette huile d'onction. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'il y a une huile d'onction pour les sacrificateurs. Est-ce que Dieu veut répandre son onction sur tous ses enfants? Est-ce qu'on est tous des sacrificateurs? Est-ce que dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont des sacrificateurs? Oui, c'est clair, bon, on ne va pas chercher les textes. Mais la parole de l'onction, cette onction que Dieu veut donner, cette vie de l'esprit que Dieu veut donner, il faut quand même être intéressé par l'Ancien Testament. Vous avez remarqué, on va lire deux textes. Et c'est quand même bien qu'on lise cette... Moi, ce sont des textes qui m'ont aidé à vous apporter ce que je vous apporte ce soir. Regardez dans le livre de l'Exode. Il est parlé de la sainte huile d'onction. Je ne sais pas si ce sont vos livres préférés. C'est quoi votre livre préféré? Le Lévitique? C'est quoi votre livre préféré? C'est quoi le livre que vous aimez lire par-dessus tout? L'Exode, le Lévitique? Bon, ce n'est peut-être pas vos livres préférés, mais regardez deux textes. Exode 30, 31 et 32. C'est quand même des textes, il faut les méditer. Si vous êtes intéressé par l'onction, qui est intéressé par l'onction? Moi, je suis intéressé, je peux vous le dire. Mais regardez ce qui est écrit. Exode 30, versets 31 et 32. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Donc ça doit vous intéresser. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Ça enseigne qu'on peut chercher à imiter l'onction. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Exode 29, verset 21. Donc il nous est reparlé de l'huile d'onction. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Il y a toujours besoin du sang, du sacrifice et de l'huile pour l'onction. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Alors bien sûr, si vous lisez ça pour la première fois, vous pouvez dire, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'onction ne peut pas être sur la chair, que si on est charnel, il n'y aura pas d'onction. L'onction, elle était sur les vêtements. Et vous savez que les vêtements, dans la Bible, c'est les vêtements du salut, c'est le manteau d'Élie, on en a parlé mardi dernier. Voilà, ça représente la vie de l'esprit, ce manteau que Élie laisse tomber sur Élisée. Voilà, il ne peut pas y avoir d'huile sur la chair. La résurrection, elle est venue après la mort de Jésus-Christ. Nous voulons cette vie de résurrection. Nous voulons que la vie de Jésus-Christ se manifeste dans l'Église. Nous voulons que la vie du Saint-Esprit se manifeste dans l'Église. Moi, je peux vous dire que si nous restons charnels, la vie de l'Esprit ne se manifestera pas. Si nous voulons que la vie de l'Esprit se manifeste, nous devons être fortifiés par le Saint-Esprit. Mais pour être fortifiés par le Saint-Esprit, il faut crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. La puissance du Saint-Esprit, et nous la voulons vraiment, nous voulons la puissance du Saint-Esprit, on ne fait que parler de ça. Dans toutes les églises du monde, toutes les églises évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez toutes les semaines un livre ou deux qui sort sur la vie de l'Esprit. Mais je peux vous dire qu'on peut écrire un livre tous les quatre matins, ça ne sert à rien. Ce qu'on a besoin, c'est que personnellement, nous soyons en conformité avec sa mort. Et on va relire ce qu'on a lu l'autre jour, parce que moi c'est un texte sur lequel Dieu m'a vraiment, mais vraiment parlé. Et j'ai compris vraiment combien on pouvait être loin de Dieu. Il y a le texte des 2 Corinthiens, mais regardez Romains chapitre 6, verset 4. Romains chapitre 6. Et croyez-moi, ce chapitre, il a été mis aux oubliettes. Ah, ça, Romains chapitre 8. Alors ça, vous remarquerez, vous entendrez presque tout le temps parler de Romains 8. Mais Romains 5 et verset 6, on n'entend jamais parler. Romains chapitre 6, verset 4 à 6. Est-ce qu'on peut le lire avec beaucoup de sérieux? Et comprenons ce que l'apôtre Paul est en train de vivre, parce qu'il l'explique, mais en vérité, il le vit. Son ministère était un ministère puissant. Il était en train de vivre quelque chose. Regardez, Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Rien que ça, déjà, ça devrait nous faire réfléchir. Que la repentance et la conversion, c'est une mort. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Je relis. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. À méditer, on va relire dans 2 Corinthiens, parce que c'est quand même quelque chose qui... Moi je l'ai lu 200 fois, sans mentir. Je l'ai lu 200 fois, je vous en ai parlé l'autre jour, que j'avais supplié Dieu qu'il manifeste sa vie, que dans l'Église nous sommes tous malheureux parce que la vie du Saint-Esprit ne se manifeste pas. Vous n'aimeriez pas que la vie du Saint-Esprit se manifeste davantage dans l'Église? Sérieusement, vous n'aimeriez pas que l'on voit certaines choses? Il y a une jeune dame qui m'a dit dernièrement qu'un jeudi soir, on n'était pas nombreux, elle a été délivrée d'une perte de sang. Elle avait prié le matin, elle dit « Mais Seigneur, si tu es vivant, si tu es puissant, délivre-moi !» Les jeunes nouvelles, elles viennent de temps en temps. Et le soir, j'ai prêché sur la femme à la perte de sang. Et elle est venue, elle m'a téléphoné. Le lendemain ou deux jours après, elle avait été délivrée. Et cette jeune fille, je suis sûr qu'elle va se convertir, j'espère qu'elle va se convertir. Mais en tous les cas, elle a expérimenté que Dieu, il manifeste sa grâce. Je vous assure, c'était un jeudi soir, on était quoi? 20 peut-être, 15, 20. Mais vous savez, Dieu ne regarde pas au nombre, hein. Il ne dit pas, bon, je vais les bénir quand ils seront 30% de l'Église. Heureusement que Dieu a dit, là où deux ou trois assemblaient mon nom, je suis au milieu d'eux. Heureusement qu'il a fait cette promesse parce qu'on serait dans le rouge. Moi, je vous le dis souvent. Mais il y a une loi, il y a une conformité à sa mort. Si nous voulons que la vie de Jésus se manifeste, il faut que nous soyons en conformité à sa mort. Lisons avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Lisons-le, mes frères et sœurs, parce que moi, je peux vous dire que j'en ai honte, mais une honte que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai lu ça fait 34 ans, dans 15 jours, que je lis la Bible. Et je peux vous dire que ce chapitre, ce texte que j'ai lu au moins 200 fois, c'est clair, en 35 ans, j'ai dû le lire, 34 ans, j'ai dû le lire au moins 200 fois, c'est sûr. Je l'ai réalisé il y a 6 mois. J'en ai honte. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Vous avez vu qu'on souffre dans la vie, hein? Oui ou non? Mais regardez, portant toujours, pas tous les dimanches matin, pas pendant la Sainte-Cène, pas le jour du baptême, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous avez vu comment ça se passe? Quand on porte la mort de Jésus, la vie de Jésus est aussi manifestée dans notre corps. Et il recommence. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Alors Dieu utilise les épreuves. Alors est-ce qu'on accepte que Dieu utilise des épreuves, toutes sortes d'épreuves, pour qu'on soit livré à la mort? Vous savez, l'autre jour, je me suis réveillé, j'ai pensé à ce texte, quand il est dit qu'un frère livrera son frère à la mort. Vous l'avez lu, ça? Mais si on peut vous savez que les textes bibliques, on peut les expliquer de plusieurs façons, sans tour d'ordre les Écritures. Et est-ce que Dieu peut utiliser un frère, une sœur, un conjoint, un enfant, un patron, pour nous livrer à la mort? Mais oui. Le contexte est là. On est persécuté, on est souffrant de toutes sortes de manières. Et on le voit là, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Ça veut dire les épreuves, ou alors on les rejette. Mais si on accepte les épreuves, ça provoque une mort. C'est-à-dire on meurt à nous-mêmes, on finit par dire, voilà, je ne veux plus que ma vieille nature regimbe. Je veux que ce soit le Seigneur Jésus qui vive en moi. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Pourquoi? Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et moi, je vous assure, c'était 2h du matin, j'étais assis dans mon lit et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Si nous voulons que la vie de Jésus soit manifestée, il faut que nous soyons conformes à la mort de Christ. Ah, ce n'est pas un message qui va plaire à tout le monde, mais ça ne fait rien. Nous, ce que nous voulons, c'est honorer la parole de Dieu. Ce que nous voulons, c'est entrer dans cette vie de l'Esprit, parce qu'on ne va pas être fortifié par le Saint-Esprit à tous égards, dans notre esprit, etc. Soyez remplis du Saint-Esprit. On peut chanter toute notre vie en boucle. Je veux que ma vie soit remplie, je veux que ma vie soit remplie. Le Seigneur répond, arrête de chanter ce cantique et rends-toi conforme à la mort de Christ et tu verras tout seul que la vie de Christ va se manifester par ta vie. Oui, la puissance du Saint-Esprit, elle doit être précédée, écoutez-vous, les deux textes qu'on vient de lire, ça ne peut pas être plus clair. La puissance du Saint-Esprit doit être précédée de la conformité à sa mort. La conformité à sa mort amènera la conformité à sa résurrection. La puissance qui est tombée sur Jésus. Est-ce que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé du Saint-Esprit? C'est une question qu'on peut poser. C'est pas malveillant. Est-ce que Jésus avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le Fils de Dieu. Il n'a jamais péché. Il est saint, il est juste, il est parfait. C'est le Fils de Dieu. Moi, je trouve que ça suffit. Eh bien non. Pour commencer son ministère, il a dû être rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert par le Saint-Esprit, et après avoir été rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand est-ce que le Saint-Esprit descend sur lui? Quand il prend le baptême. Vous connaissez le baptême de Jésus-Christ? Quand il prend le baptême, il sort de l'eau et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et Dieu approuve cette affaire. Et une voix se fit entendre du ciel, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » On pourrait se dire, mais il ne prend que le baptême, et déjà ça commence comme ça. Le ciel s'ouvre, parce que voilà l'affaire, c'est que le ciel s'ouvre. C'est ça qu'il nous faut, oui ou non. Il faut que le ciel s'ouvre sur Toulouse, sur l'Église qui aura l'approbation de Dieu. Mais Jésus, il a 30 ans. Il va servir que 3 ans. Il a attendu 30 ans pour servir que 3 ans. On pourrait dire, bon, c'est bon. Mais il est en train d'obéir. Oui, il est saint. Oui, il est juste. Mais il est en train d'obéir. Il meurt à lui-même. Parce que franchement, s'il y en avait un qui aurait pu dire, bon, écoute, vous prendrez tous le baptême, mais moi, je n'ai pas besoin de prendre le baptême, je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'il aurait pu le dire, ça? Mais oui, bien sûr. Et personne n'avait rien à dire. Rien à dire. Et en plus, ça tenait debout. Mais il s'est fait, il s'est identifié. Il est mort à lui-même. Le jour, le baptême, c'est pas, voilà, il a pris le baptême, oh, c'est formidable, il était là, il a pris le baptême, c'est merveilleux. Non, il a pris cet engagement de mourir à lui-même. Le Jourdain, c'est toujours l'image de la mort à soi-même. C'est pour ça que Dieu a mis son approbation. Quand il y a la mort à soi-même, il y a l'approbation de Dieu. Nous voulons que le ciel s'ouvre sur l'Église. Alléluia, mes frères. Est-ce que Toulouse a besoin que le ciel s'ouvre? Est-ce que notre pays a besoin que quelque part le ciel s'ouvre? Est-ce que notre génération a besoin de voir le ciel s'ouvrir? Mais je pense que la réponse, on l'a toute faite. Mais mes frères et sœurs, le ciel ne va pas s'ouvrir comme ça. Il ne va pas s'ouvrir. Seigneur, ouvre le ciel, on peut pleurer toute la nuit, ça ne sert à rien. Seigneur, moi je vais abdiquer. J'ai compris, ces deux textes, ça suffit. Je veux me rendre en conformité à ta mort. Oui, je vais aller au calvaire. On l'a chanté, il est beau ce cantique, hein, au pied de la Sainte Croix. Il est très joyeux en plus, mais je veux dire, au pied, voilà, à la croix, on n'arrête pas de dire à la croix, ben oui, eh bien je vais me tenir à la croix, je vais rester crucifié. Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il a fait l'apôtre Paul? Non mais c'est un truc de fou. Avec Paul et Silas, il est dit dans les Actes qu'ils ont bouleversé le monde. Et il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas beaucoup de téléphones portables à l'époque. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sans rien, à pied souvent, à pied, ils étaient à pied, bon, en bateau, mais je veux dire, il a fait 3 voyages missionnaires, sans rien, la Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Mais Paul était mort à lui-même. D'ailleurs, il ne fait aucun cas de sa vie. Enfin, si vous lisez tous les textes de la Bible du Nouveau Testament à la lumière de ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre pourquoi Dieu a utilisé Saul de Tarse. Pourquoi Dieu a utilisé Anne. Moi, je n'aurais pas utilisé un homme qui respirait le meurtre et la menace. Vous auriez choisi un gars qui respirait le meurtre? Non. Mais Dieu, il connaît les cœurs de tous les hommes. Alléluia. La Bible dit que Dieu pèse les actions de chaque être humain. Chaque action, elles sont pesées par le cœur, dans le cœur de Dieu. Dieu savait que Anne, elle allait enfanter ce grand prophète qui allait changer le cours de l'histoire. L'homme qui respirait le meurtre et la menace est devenu, dans l'histoire du Nouveau Testament, certainement le plus grand homme de l'histoire, après Moïse dans l'Ancien. Mais mes frères et sœurs, pourquoi? Parce que ces hommes, ils sont morts au péché. Et ils sont morts et ils ont donné leur vie entière. Ils ont livré leur nature. L'huile, elle ne peut pas venir sur la chair. Est-ce que c'est clair ou est-ce que ça a besoin de précision? L'huile d'onction, elle ne vient pas sur la chair. La chair, on ne peut pas plaire à Dieu. On peut plaire à Dieu qu'en étant dépouillé de notre vieille nature. Seigneur, ma vieille nature, je ne vais pas l'utiliser. Tu ne vas pas l'utiliser pour faire ton œuvre. Dieu ne peut pas utiliser notre nature, même si elle est super sophistiquée, super améliorée. Non, Dieu utilise des hommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et Jésus a commencé son ministère en étant rempli du Saint-Esprit. Alors si Jésus a commencé son ministère en étant rempli du Saint-Esprit, je ne pense pas qu'il y ait un homme sur la terre qui puisse exercer un ministère, quel qu'il soit, sans être rempli du Saint-Esprit. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit, qui dit, moi je veux, Seigneur, que tu m'éclaires, éclaire-moi, j'ai besoin d'être éclairé, montre-moi. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? Est-ce qu'on peut terminer cette réunion en disant, mais Seigneur, éclaire-moi, tu vois où j'en suis, tu vois ce que dans le domaine je me trompe peut-être, dans quelle erreur je puisse... Est-ce que Dieu peut nous montrer nos égarements, nos erreurs? Oui. Moi, je vous assure, c'était une nuit, je vous assure, je ne dormais pas, j'étais parti dans une chambre à côté pour ne pas réveiller Isabelle, j'étais assis sur mon lit, ah mais je me rappelle, j'ai dit, Seigneur, manifeste ta vie, on veut voir la vie de Dieu se manifester dans l'église, manifeste ta vie, et puis j'ai pris la Bible, et j'ai fait comme on fait des fois, vous savez, on ouvre au hasard, et je lis, nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Et j'ai pensé à un verset qu'on demandait à Dieu du pain, et bien il nous donnait du pain. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on demande à Dieu du pain, il ne nous donne pas une pierre. J'avais demandé à Dieu qu'il me parle, et je vous assure que cette nuit-là, Dieu m'avait répondu. Et nous voulons une église où les chrétiens crucifieront la chair. Alors ce qui est humain, ce qui est naturel, ce qui est de la vie, eh bien c'est bien. Mais ce qui est charnel, demandez à Dieu. Moi, je le demande, Seigneur. Demandons à Dieu. Pour terminer cette réunion, montre-moi ce qui, dans ma vie, est charnel, afin que je puisse, moi aussi, le crucifier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut demander de l'aide au Seigneur? Oui, on va le faire, s'il vous plaît. Demandons de l'aide au Seigneur. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas terminer cette réunion sans te demander de l'aide et du secours. Tu t'es révélé à Saul de Tarse, cet homme qui respirait le meurtre, la menace. Tu t'es révélé à lui. Tu t'es révélé à Daniel. Tu t'es révélé à Moïse. Et tu te révéleras, Seigneur. Là où les hommes te cherchent vraiment, tu l'as dit, cherchez et vous trouverez. Et nous voulons, Seigneur, chacun où nous en sommes, te demander de l'aide, afin que tu nous amènes à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, afin que cette huile sainte, cette huile d'onction puisse se répandre sur ton peuple. Seigneur, c'est vraiment notre prière, afin qu'on soit tous fortifiés par ton esprit, dans notre esprit. Vraiment, c'est notre prière. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à crucifier la chair. Que ton nom soit béni.